Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série très importante concernant « Tu n'as qu'une seule vie, elle est bientôt passée. Tu n'as qu'un aller simple dans ta vie. » Et le thème d'aujourd'hui sera, de notre CD numéro 6, sera « La valeur de Dieu et la vie ». Chers amis, pour que les autres puissent jouir du bonheur éternel en Dieu, il faut que notre vie atteste que ce Dieu-là est effectivement plus précieux que la vie. Psaume 63, verset 4 nous dit « Ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » J'ai dit psaume 63, verset 4. Pour atteindre cet objectif, nous devons faire le choix d'une vie de sacrifice, un choix fondé sur l'assurance que célèbre la grandeur de Christ par la générosité et la grâce est plus satisfaisante que nous laisser guider simplement par des aspirations égoïstes. Si nous fuyons le risque afin de préserver notre sécurité et notre réputation, eh bien nous gâcherons notre vie. Ce CD traitera du style de vie qui peut nous préserver d'un tel gâchis. Chers amis, comment ne pas trahir Jésus? Si Christ est un trésor pleinement satisfaisant, et s'il promet de pourvoir à tous nos besoins, même en période de famine et de dénuement, alors vivre comme si nous avions adopté les valeurs du monde équivaut à le trahir. Je pense en particulier à l'usage que nous faisons de notre argent et à notre façon d'apprécier la valeur de nos biens matériels. Les paroles de Jésus résonnent à mes oreilles. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» En effet, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Or, votre Père Céleste, il sait que vous en avez besoin. Saint Matthéus, chapitre 6, versets 31 et 32. En d'autres termes, si nous donnons l'impression d'avoir pour objectif dans la vie d'acquérir et de conserver des biens matériels, nous ne sommes pas différents des gens du monde, et la grandeur de Christ n'est pas exaltée. Notre Sauveur est alors perçu comme étant d'un intérêt secondaire, peut-être utile pour échapper à l'enfer, mais sans que cela fasse une différence dans notre vie et dans nos affections ici-bas. Pardon. Il ne ressemble en rien à un trésor pleinement satisfaisant, et cela ne contribue pas au bonheur, ni au bonheur des autres en Dieu. Dans la mesure où nous sommes des étrangers et des résidents temporaires sur la terre, selon la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11, où notre véritable patrie est au ciel, Philippiens chapitre 3, verset 20, où rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, Romains chapitre 8, verset 35, où l'immuable bonté de Dieu est plus précieuse que la vie, Psaume 63, verset 4, et où toute souffrance contribue à nous procurer un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Nos craintes peuvent donc s'envoler par la fenêtre et nous pouvons nous employer à rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu selon Saint Matthieu chapitre 6 verset 33. Nous considérons alors toutes choses comme de la boue comparée à Jésus-Christ. Et notez Philippiens, chapitre 3, versets 7 et 8. Nous acceptons avec joie qu'on prenne nos biens pour des actes de grâce impopulaires. Notez Hébreux, chapitre 10, verset 34. Nous préférons être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché, et nous considérons l'humiliation attachée à Jésus-Christ comme étant une richesse plus grande que les trésors de toute l'Égypte, selon Hébreux chapitre 11, versets 25 et 26. Chers amis, tout d'abord, j'aimerais vous dire que, avec l'âge de 91 ans, donc 91 ans, je peux simplement vous dire que, ayant fait faillite, ayant tout perdu, mon épouse bien-aimée étant morte par négligence médicale il y a déjà 26 ans, croyez-moi, s'il n'y avait pas Dieu, s'il n'y avait pas mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui m'a soutenu, je serais il y a longtemps mort, ou je serais dans un hôpital psychiatrique en train d'avoir une terrible dépression parce que j'ai tout perdu, absolument tout. J'ai fait faillite, ça veut tout dire. Vous savez, être obligé de déposer son bilan, c'est pas quelque chose que je souhaite ni à l'un ni à l'autre, jamais. C'est terrible. Et j'ai survécu jusqu'à maintenant, vraiment par miracle. Oui, c'est vrai. À 91 ans, 91 ans, et croyez-moi, de vous parler ce message, ce n'est pas automatique. Je dois rire parce que je peux vous dire que ça demande beaucoup de prières et l'aide absolue, pleinement, de mon Sauveur et Seigneur, comme jamais. Oh oui. Je poursuis donc notre étude. Pourquoi ne nous interroge-t-on pas sur notre espérance? Voyez-vous, si notre vie était plus conforme au modèle évoqué, il ne fait aucun doute que le monde serait plus enclin à envisager la possibilité que Jésus soit un trésor pleinement satisfaisant, et il en aurait en effet l'apparence. Quand, pour la dernière fois, quelqu'un vous a-t-il interrogé, je vous le demande. Quand, je le répète, pour la dernière fois, quelqu'un vous a-t-il interrogé sur les raisons de l'espérance qui est en vous? L'apôtre Pierre nous invitait à toujours être prêts à répondre de telles questions. Il a dit « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demanderont raison. » Premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 15. Si les autres ne nous interrogent pas à propos de notre espérance, c'est probablement parce que nous donnons l'impression d'avoir la même queue. Notre vie ne témoigne pas d'une marche sur le chemin du calvaire, d'une disponibilité à nous laisser dépouiller par amour, d'un service auprès des autres accompagné de la douce assurance que nous n'avons pas besoin de récompense ici-bas. Eh bien oui, c'est au ciel que notre récompense sera grande, est-il dit dans Saint Matthieu, chapitre 5, verset 12. Il est dit « Tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Saint Luc, chapitre 14, verset 14. Si nous croyons plus profondément à cette vérité-là, eh bien les autres pourraient plus facilement percevoir la grandeur de Dieu et faire de lui leur délice. Eh bien, maintenant, quelque chose de sérieux, la question de l'argent et du style de vie n'est pas une question secondaire dans la Sainte Bible. La crédibilité de Christ dans le monde en dépend. 15% de tout ce que Jésus-Christ a dit, eh bien, croyez-moi ou pas, se rapporte à ce thème-là. C'est plus que tous ses enseignements sur le ciel et l'enfer réunis. Le même principe revenait dans tous ses enseignements. Et écoutez bien la suite. Jésus lui dit: il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Saint Marc, chapitre 10, verset 21. Et je continue, notez bien les citations bibliques que je vous donne. Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Saint Luc, chapitre 6, versets 20 et 24. Ainsi donc, s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède, aucun de vous ne peut être mon disciple. Saint Luc, chapitre 14, verset 33. Et encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille que à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Saint Luc, chapitre 18, verset 25. Et notez encore, gardez-vous avec soin de toute cupidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Saint Luc, chapitre 12, verset 15. Et notez la suite. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Saint Matthieu, chapitre 6, verset 33. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. Saint Luc, chapitre 12, verset 33. Notez également Saint Luc, chapitre 19, versets 8 et 9, où il est dit « Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos: le salut est entré aujourd'hui même dans cette maison. J'ai dit Saint-Luc, chapitre 19, versets 8 et 9. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède, et il achète ce champ. Saint Matthieu, chapitre 13, verset 44. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Alors Jésus dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Saint Luc, chapitre 21, versets 2 et 3. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Saint Luc, chapitre 12, versets 20 et 21. Jésus lui répondit, « Oh, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Saint Luc, chapitre 9, versets 58 et 59. Mes chers amis, sans cesse, Jésus s'est montré radical dans son appel à adopter le style de vie d'un temps de guerre, et à faire preuve d'une générosité risquée. J'utilise le terme « risqué ». Pourquoi ? À cause de l'histoire de notre pauvre veuve. Celle-ci a offert ses derniers centimes pour le service du temple. La majorité d'entre nous, nous la qualifions de « folle », ou pour être plus poli, de imprudente. Mais Jésus n'a prononcé aucune parole négative à son sujet. Jésus a dit, il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces équivalent à un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve, elle a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, mais elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, oui, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Saint Marc, chapitre 12, versets 42 à 44. Évidemment, cette histoire ne signifie pas que tout le monde doive renoncer à tout. Elle souligne plutôt que Jésus apprécie la foi prête à prendre des risques pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas de règles à communiquer concernant la façon de dépenser votre argent. Je n'ai pas d'autre que celle indiquée par Jésus. Je souhaite juste nous renvoyer à Jésus-Christ en laissant sa parole nous bousculer et nous libérer. L'accent qui est mis par Jésus sur l'argent et sur les biens matériels, parcourt tout le Nouveau Testament. Il est donc présent partout. Dans les récits du livre des Actes, ils vendaient leurs propriétés et tous leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Actes, chapitre 2, verset 45. Dans les encouragements de l'apôtre Paul, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance chez eux de riches libéralités. Notez 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 2. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Dans les écrits de Jacques, le frère de Jésus, il dit « L'herbe se flotte, l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté disparaît. De même, le riche se flétrira, et oui, il se flétrira dans ses entreprises. » Saint Jacques, chapitre 1, verset 11. Si le thème est omniprésent, c'est qu'il est crucial, crucial pour le témoignage de l'Église. Si nous désirons aider les autres à trouver le bonheur en Dieu, nous devons témoigner par notre vie, par notre propre vie, que c'est lui, Dieu, qui fait notre joie, et non pas nos biens matériels. Nous devons donc employer nos biens pour le bonheur des autres, en Dieu, particulièrement pour les plus démunis. Parfois, j'utilise l'expression « style de vie » ou « état d'esprit des temps de guerre ». L'expression m'est très utile, quoique pas tout à fait adéquate. Elle me rappelle qu'il y a une guerre qui se déroule, oh oui, qui se déroule dans le monde, entre Jésus-Christ et Satan, entre la vérité et le mensonge, entre la foi et l'incrédulité. Elle me rappelle que les armes doivent être fabriquées et utilisées et que notre armement n'est pas constitué d'épées, de pistolets ou de bombes, mais de l'Évangile, de la prière et d'un amour prêt au sacrifice. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Elle me rappelle aussi que ce conflit a des enjeux beaucoup plus élevés que n'importe quelle autre guerre de l'histoire, car ils sont éternels et infinis. C'est le ciel ou l'enfer, c'est la joie éternelle ou le tourment éternel, selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 46. J'ai donc besoin d'entendre et de réentendre ce message, car je me laisse facilement aller à la nonchalance, aussi certainement que la pluie tombe du ciel et que les flammes s'élèvent. Par nature, je suis enclin à apprécier les jouets que le monde apprécie, et je commence à me sentir à l'aise. Je commence à aimer ce que aiment les autres. Je commence à me considérer comme un habitant de la terre. J'oublie donc la guerre. Je ne me préoccupe plus vraiment de ceux qui périssent autour de moi. La mission et les perdus deviennent donc ainsi les cadets de mes soucis. Je cesse de rêver au triomphe de la grâce. Je m'imprègne d'un état d'esprit séculier en songeant d'abord à ce que l'homme peut accomplir et non à ce que Dieu peut faire. C'est une terrible maladie, aussi je remercie Dieu pour tous ceux qui m'ont poussé sans relâche à adopter un état d'esprit des temps de guerre. Chers amis, à quoi ressemble un temps de guerre? Un certain Rolf Winter, par exemple, il ne s'est pas contenté d'écrire avec vigueur sur le style de vie adapté en temps de guerre. Il l'a aussi vécu concrètement en tant que missionnaire, en tant que professeur et fondateur du Centre américain pour la mission mondiale. Il n'a cessé de plaider en faveur des peuplades qui, dans le monde, n'ont pas encore entendu l'Évangile. Voici une illustration pertinente qu'il a utilisée pour montrer la manière différente dont nous considérons nos biens selon que nous sommes en temps de guerre ou en temps de paix. Le Queen Mary, amarré dans le port de Long Beach, en Californie, est un musée au passé fascinant. Utilisé à la fois comme paquebot pour des croisières de luxe en temps de paix et comme moyen de transport de troupes durant la Seconde Guerre mondiale, il illustre actuellement de façon étonnante, en tant que musée de la taille de 3 terrains de football, le contraste entre les styles de vie adoptés en temps de paix et en temps de guerre. D'un côté d'une cloison, vous découvrez la salle à manger, restaurée afin de recréer le cadre paisible qui convenait aux riches clients de la haute société pour lesquels le balai des couteaux, fourchettes et cuillères n'avait aucun mystère. De l'autre côté de la cloison, on voit les indices de l'austérité des temps de guerre qui offrent un contraste très fort. Un plateau métallique bosselé remplace 15 assiettes et soucoupe. Des couchettes superposées, pas simplement doubles, mais empilées sur 8 étages, expliquent comment on a pu passer d'un effectif de 3000 personnes en temps de paix à 15 000 en temps de guerre. Combien cette transformation devait paraître répugnante aux nantis du temps de paix. Pour qu'elle puisse survenir, il a fallu un état d'urgence nationale, bien entendu. La survie d'une nation en dépendait. L'essence du grand ordre de mission aujourd'hui, c'est que la survie de plusieurs millions de gens dépende de son accomplissement. Oh oui, chers amis, l'expression « se dépenser » peut sonner particulièrement austère. En fait, il n'en est rien, car il y a un don de vie qui s'opère lorsque nous nous dépensons pour permettre aux autres de trouver le bonheur en Dieu. Jésus a enseigné que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Saint Marc, chapitre 8, verset 35. Cette vérité, elle s'applique aussi bien aux individus en route pour le ciel que aux cultures en voie de disparition. L'Occident d'aujourd'hui est une société du « sauve-toi toi-même », si du moins il n'y en a jamais eu une. Mais cela fonctionne-t-il vraiment? Les sociétés sous-développées souffrent d'une tyrannie de maladies telles que la tuberculose, la malnutrition, la pneumonie, les parasites, la typhoïde, le choléra, le typhus, etc. Or, l'Occident de la prospérité a pratiquement inventé une nouvelle série de maladies telles que l'obésité, l'artériosclérose, les maladies cardiovasculaires, l'apoplexie, le cancer du poumon, les maladies vénériennes, la cirrhose du foie, la dépendance à la drogue, l'alcoolisme, le divorce, les enfants battus, le suicide et le meurtre. Eh bien, le choix ne manque pas. Les robots et l'intelligence artificielle conçue pour travailler à notre place se sont révélés être des appareils de destruction pour le corps. Notre abondance a favorisé à la fois l'éloignement et l'isolement du noyau familial. Résultat, les prisons, les hôpitaux psychiatriques et les tribunaux chargés de juger les cas de divorce sont débordés. En cherchant à nous sauver nous-mêmes, eh bien nous nous sommes pratiquement perdus nous-mêmes. Et oui, le simple fait d'employer nos biens pour contribuer au bonheur en Dieu des plus nécessiteux peut nous sauver à plus d'un titre. Cela confirme la valeur que Jésus-Christ a pour nous et nous garde ainsi focalisés sur les choses d'en haut. Notre société peut s'en trouver transformée. Elle cessera d'être dirigée par le désir impérieux et suicidaire de se satisfaire elle-même sans aucune joie en Jésus-Christ, ni compassion pour les pauvres. Pour échapper à la tragédie, nous devrions méditer très sérieusement sur ce que représente un style de vie des temps de guerre. Chers amis, il existe les effets du péché et de Satan au niveau microbiologique, oui, là où se reproduisent, où se produisent les dégâts les plus monstrueux dans la création divine. Satan a utilisé sa liberté rebelle de façon horrifiante au niveau microbiologique. Il a développé des germes et des virus destructeurs, causant ainsi un tiers de la mortalité sur la planète. Ce que la Sainte Bible nomme simplement la peste est un fléau qui frappe autant les animaux que les hommes. C'est une œuvre que Dieu nous a donnée, la mission pour combattre tout cela. Cependant, si les missionnaires ne présentent pas un Dieu qui combattit à toutes les souffrances, à toutes les distorsions de sa création, ils représentent alors bien mal l'ampleur de son amour et de son intérêt, sa nature même. Les gouvernements ne consacrent que quelques miettes de leur budget à la lutte contre le cancer. Le 80% de la subvention allouée a été détournée pour la recherche contre le sida et le 20% restant est presque entièrement employé à l'évaluation des traitements au lieu de servir à la prévention. Les 40 projets financiers par l'Institut national contre le cancer ont pour centre d'intérêt essentiel les traitements à base de chimiothérapie et de radiothérapie et non pas la prévention. Voyez-vous, si nous considérons le nombre de décès qui est dû au conflit, c'est comme si nous étions engagés dans 150 guerres en même temps. Et cependant, eh oui, nous agissons comme si le combat ne faisait pas rage. Comment pouvons-nous prendre enfin conscience qu'un tiers des femmes et la moitié des hommes développeront un cancer avant même la fin de leur vie? Chers amis, la suite de cette étude, elle sera sur le CD numéro 7. Et j'espère que d'ici là, le Seigneur m'aura aidé à ce que ma voix soit un peu meilleure. Chers auditeurs et chères auditrices, il existe vraiment des organisations ou, si vous voulez, des endroits bibliques qui vivent exactement comme il est dit dans la Bible, exactement selon le partage biblique tel que le Bruderhof dans plusieurs pays. Une des adresses du Bruderhof, c'est Darvel Community, Roberts Bridge et Sussex, TN32, 5TR, Grande-Bretagne. Chers amis, comme je vous l'ai dit, l'étude prochaine continue dans le CD numéro 7, 8, 9, 10, etc. Que le Seigneur vous bénisse. À demain matin, Dieu voulant. Mais en attendant, le Seigneur m'a donné quelque chose à vous transmettre. Écoutez bien. C'est pour vous encourager et aussi pour votre éducation personnelle. Le Seigneur aimerait vous faire comprendre que dans tout ce que vous faites, en tout ce qui vous occupe au dehors, vous devez vous efforcer de demeurer libre intérieurement et vous devez être maître de vous-même. Tel qu'un vrai Israélite, affranchi de toute servitude, entrez dans le partage et dans la liberté des enfants de Dieu qui élevait au-dessus des choses présentes, contemple celle de l'éternité et qui donne à peine un regard à ce qui passe et ne détache jamais leurs yeux de ce qui durera toujours, qui, supérieur au bien du temps, ne cède point à leurs attraits, mais plutôt les force de servir au bien selon l'ordre établi par Dieu, qui est le refuge suprême. Il est le régulateur absolu qui n'a rien laissé de désordonné dans toutes ses œuvres. Si dans toutes les événements, vous ne vous arrêtez point aux apparences et n'en croyez point les yeux de la chair sur ce que vous voyez et que vous entendez, si vous entrez d'abord comme Moïse dans le tabernacle pour consulter le Seigneur, eh bien vous recevrez sa divine réponse et vous reviendrez instruit de beaucoup de choses sur le présent et sur l'avenir. Car c'était toujours dans le tabernacle que Moïse allait chercher l'éclaircissement de toutes ses difficultés et de ses doutes, car il en avait aussi, et la prière était son unique recours contre la malice et contre les pièges des hommes. Ainsi vous devez vous réfugier dans le secret de votre cœur, vous implorer le secours de Dieu avec beaucoup plus d'instance. Nous disons que Josué et les enfants d'Israël furent trompés par les Gabaonites parce qu'ils n'avaient point auparavant consulté le Seigneur. Notez Josué, chapitre 9, verset 14. Et que trop crédules à leurs flatteuses paroles, ils se sont laissés séduire par une fausse piété. Maintenant, chers amis, prions ensemble, s'il vous plaît. Ô Esprit du Dieu vivant, dérange notre sommeil, notre orgueil, notre apathie. Viens sur nous comme une flamme dévorante, nous purifions de toute souillure et nous arrachons aux ténèbres de notre esprit. Viens à nous comme un vent puissant et frémissant, dissipant les brouillards de nos doutes, excitant nos âmes à l'action, leur rendant la santé et balayant les craintes qui nous ont tenus si longtemps captifs. Tout cela, nous le disons, dans le merveilleux saint nom de Jésus-Christ. Amen. Et chers amis, rappelez-vous que Dieu vous aime. Et oui, il aime tous ceux qui un jour ont eu le courage de reconnaître qu'ils étaient perdus, qu'ils étaient des pécheurs et qu'ils se sont humiliés. Oui, et qui se sont mis à genoux et qui ont dit, « Oh Jésus, prends-moi tel que je suis, sauve-moi, restaure-moi. » Et tous ceux-là sont aimés du Seigneur. Et de ce fait, il est de mon devoir de vous aimer également. Et maintenant, là où vous êtes, auprès ou loin, je vous enlace et je vous embrasse tous et je vous dis oui, je vous aime, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Amen. Et maintenant j'aimerais vous mettre un ou deux chants d'un lointain passé que j'ai enregistré quand j'étais jeune, en 1960, avec un appareil qui s'appelait le Revox à bande. Et bien sûr que la netteté a beaucoup perdu, et parfois il y a même des ratés. Mais l'Esprit Saint s'y trouve, vous le comprendrez. Soyez donc bénis, à demain matin, Dieu voulant, Dieu voulant. À bientôt.
Partager l'enfant Dieu du pardon. Allez voir. commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Avant que le monde existe, Christ était avec Dieu. Depuis de toute éternité, il est lui-même Dieu, le Créateur de l'univers, grandiose et parfait. Éternelle lumière éclairant l'humanité. Il va sur terre vivre avec nous, Emmanuel, et de la Vierge aux Anas selon le plan du ciel. Homme de douleur, méprisé, rejeté par les humains, mais pour ceux qui le reçoivent, la vraie vie enfin.
Divers